en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
La séance est ouverte et je mets tout d'abord, comme d'ordinaire, à l'approbation le procès-verbal de la précédente séance du lundi 23 mai. Est-ce qu'il y a des observations ? Pas de commentaires. Il est adopté. Et je donne maintenant la parole à notre secrétaire perpétuel pour la lecture de la correspondance.
Oui, merci, Monsieur le Président. On demandait à être excusé de la séance de ce jour Rémi Brague, Chantal Delsol, Emmanuel Leroy-Ladurie, Jean-David Lévite, Thierry de Montbrial et François Dorcival.
Je vous remercie. Où est-ce qu'ils sont ? Nous appelons aux honneurs de la séance, s'il est parmi nous, M. Michel Robitaille, qui n'est pas là. Donc, nous aurions été heureux de l'avoir parmi nous, mais il n'est pas là, donc je ne peux pas l'appeler aux honneurs de la séance. Je vais donc passer immédiatement la parole à notre... regardez si nous avons aujourd'hui des dépôts d'ouvrages. Il y en a. Monsieur Kessler.
Oui, merci, Monsieur le Président. Chers confrères, j'ai le plaisir aujourd'hui de déposer sur le bureau de l'Assemblée le livre de notre confrère Jean Tirole, qui n'est pas là. Je préfère qu'il ne soit pas là parce que je vais le couvrir d'éloges. Son livre s'appelle « Économie du bien commun ». C'est un superbe ouvrage. C'est vraiment un très, très bel ouvrage où Jean Tirole nous fait partager sa passion, mais vraiment phénoménale pour cette science, toujours en développement, toujours en évolution, qu'est l'économie. Vous connaissez tous les qualités exceptionnelles de Jean Tirole, la très grande portée de son œuvre scientifique, qui lui ont valu les plus hautes distinctions, dont le prix Nobel, bien entendu, et la reconnaissance vraiment de par le monde de l'ensemble de ses pairs. Ce n'est pas un hasard, d'ailleurs, que Jean Tirole ait rejoint notre académie. Dans son livre, où ne figure sur les 629 pages limpides, pas une seule équation, c'était le défi qu'on lui avait lancé, il n'y en a qu'une et elle figure en note de bas de page, et donc on peut lui pardonner. Jean Tirole nous montre comment la science économique fournit les instruments pour pouvoir accéder au bien commun. Jean a une formidable conception du rôle de l'économiste. Je vous incite à lire notamment au chapitre 3, intitulé « L'économiste dans la cité ». L'auteur nous montre comment on peut parvenir à résoudre un grand nombre de problèmes que nos sociétés affrontent dans les très nombreux domaines en recourant à l'analyse économique rigoureuse. Partisan ni du tout marché, ni du tout État, Jean Tirole adopte une attitude très pragmatique, équilibrée, pour toujours parvenir à atteindre l'efficacité et l'équité. L'homo economicus est certes caractérisé par la rationalité, mais chez Jean Tirole, il est aussi homo psychologicus, homo socialis, homo juridicus. L'économie est bel et bien une science humaine, une science sociale, mais c'est aussi une science. Les analyses de Jean Tirole couvrent une palette incroyablement variée de domaines, emploi et chômage, croissance, gouvernance des sociétés, lutte contre le changement climatique, pollution, tarification de l'électricité, régulation des services publics, régulation financière, Europe et bien d'autres sujets encore. Jean Tirole, au terme de ses analyses, conclut, tranche, indique les voies et moyens les plus propices pour résoudre le problème traité. Formons le vœu que ceux qui exercent le pouvoir ou aspirent à le faire fassent de l'économie du bien commun leur livre de chevet et s'en inspirent et suivent la démarche exigeante et féconde proposée par Jean Tirole. Cet ouvrage fait déjà date, tant il est intelligent, riche, tant il enrichit considérablement la boîte à outils qui non seulement nous permet de comprendre le monde, mais aussi, si les outils sont utilisés à bon escient, à le rendre meilleur, plus proche des aspirations tant individuelles que collectives. Ce n'est pas à l'économiste de définir le bien commun, mais une fois qu'il est défini, c'est à lui qu'il incombe de déterminer comment l'atteindre le plus efficacement et le plus rapidement. PUF, qui est une excellente maison d'édition, qui a édité l'ouvrage de Jean Tirole, qui connaît déjà un très grand succès de librairie, il a été tiré à 70 000 exemplaires, ont le plaisir de vous offrir un exemplaire de l'économie du bien commun, et je vous en souhaite personnellement une excellente lecture.
Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie beaucoup. Y a-t-il d'autres dépôts d'ouvrages ? Il n'y en a pas. Alors, nous allons passer à la communication de ce jour, qui qui nous sera faite par M. Daniel Turp, professeur à la faculté de droit de l'Université de Montréal. M. Turp a poursuivi ses études universitaires à la fois au Canada, à Sherbrooke et à Montréal, à Cambridge et à Paris, Paris 2, où il est titulaire d'un doctorat d'État. Il enseigne donc le droit international public et le droit constitutionnel, ainsi que les droits fondamentaux à l'Université de Montréal. Il a également enseigné dans diverses universités françaises et européennes. Il préside le conseil d'administration de la Société québécoise de droit international, et en dehors de ses activités universitaires, il a eu des activités politiques, puisqu'il a été député du Parti québécois à l'Assemblée nationale du Québec et député du Bloc québécois à la Chambre des communes du Canada. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages de droit constitutionnel et de droit international. Et en outre, et ceci est cher à mon cœur personnellement, il est un amateur d'opéra et dirige la revue de l'opéra, la revue québécoise d'art lyrique, et je crois savoir qu'il rédige même actuellement le livret d'un projet d'opéra. Monsieur le professeur, vous avez la parole.
Vice-président Michel Brault, monsieur le secrétaire perpétuel Xavier Darcos, mesdames et messieurs de l'Académie, chers collègues et amis, des salutations particulières à mon épouse Bartha Knoppers qui se joint à nous aujourd'hui. Je tiens d'abord à remercier le juge Guillaume d'avoir invité à participer à cette série de conférences sur la vie internationale et le droit qu'il organise durant sa présidence. Je me réjouis d'ailleurs d'être de retour dans votre auguste enceinte où je recevais le 1er décembre 2014 au nom du réseau francophone de droit international avec mon collègue bruxellois Éric David, mais aussi avec mon collègue Daniel Dormois qui se joint aussi à nous de l'Université de Paris 11, le prix Édouard Bonnefou, où vous soulignez les 30 années d'existence de ce concours de procès simulé en droit international Charles Rousseau. D'ailleurs, depuis l'attribution de votre prix, deux autres concours ont eu lieu depuis, ici en France en 2015, organisé par Daniel Dormois d'ailleurs, et à Cuba en 2016. Il y a donc moins d'un mois, 26 facultés de droit de la francophonie, mais également d'Allemagne, d'Argentine, du Brésil, de Colombie, des États-Unis d'Amérique, de Russie, se sont affrontées en français, dans notre langue commune, lors d'un concours dont est sorti vainqueur une équipe composée de deux jeunes brésiliennes qui parlaient mieux français que nous. En conformité avec les conditions d'attribution du prix Bonnefou, ce sont de jeunes juristes d'Afrique, de Côte d'Ivoire et d'Europe orientale, de Roumanie, qui ont été les bénéficiaires du prix Bonnefou cette année. Et je vous remercie à nouveau de ce soutien au concours Rousseau. Le Québec et le droit international. Tel est le thème que j'ai choisi avec l'accord du juge Guillaume de traiter devant vous aujourd'hui. Ce choix aura la particularité de vous permettre de découvrir un État qui, sans être souverain et indépendant, a cherché à affirmer une personnalité internationale et à s'appuyer sur le droit international pour émerger comme l'un de ses sujets. Et à moins d'un an de la commémoration du 50e anniversaire de l'Exposition universelle de 1967, dont la tenue avait été marquée, peut-être que vous vous en rappelez, par le célèbre « Vive le Québec libre » du président Charles de Gaulle, vous me donnez l'occasion de présenter une synthèse de 50 ans d'évolution des relations internationales d'une nation qui a d'ailleurs développé avec la France une relation directe et privilégiée qui n'est pas étrangère à son acquisition d'une autonomie internationale dont je parlerai dans la première partie de mon exposé. Le droit international n'est par ailleurs pas étranger aux débats qui ont eu lieu et se poursuivent dans la quête du Québec en tout cas la quête pour certains et certaines de son indépendance nationale, et j'en parlerai dans la deuxième partie de mon exposé. Donc d'abord, l'autonomie internationale du Québec et le droit international. Le Québec est l'un des 10 États fédérés du Canada. Il se distingue par un régime juridique, comme vous le savez sans doute, s'appuyant sur un code civil d'inspiration française. Il dispose de pouvoirs fiscaux importants et détient des compétences qui sont énumérées dans la loi constitutionnelle de 1867. Celle-ci confère au Québec une très large autonomie, notamment en matière d'éducation, de culture. Cette autonomie a toutefois été réduite lors de l'adoption sans son consentement, ni de son peuple, ni de son parlement, ni de son gouvernement, d'une loi constitutionnelle de 1982 qui est à l'origine d'une impasse politique qui n'a pas été à ce jour résolue. Ce sont deux lois qui sont au centre de l'édifice constitutionnel canadien, qui ne comportent pas par ailleurs des dispositions relatives aux affaires étrangères. Le texte de la Constitution du Canada est silencieux sur les questions d'affaires ou de politique étrangère. Et c'est d'ailleurs dans le contexte d'une effervescente révolution tranquille au début des années 60 que le Québec a choisi d'affirmer l'existence au profit de l'État québécois d'une compétence en matière internationale. Cette affirmation s'est traduite dans un énoncé du vice-premier ministre du Québec devant le corps consulaire à Montréal le 12 avril 1965, qui est connu depuis lors par la doctrine Gérin-Lajoie. Cette doctrine est à l'origine d'une pratique des relations internationales du Québec qui n'a cessé de gagner en importance et s'est par ailleurs vu conférer une assise juridique en 2000 dans la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l'État du Québec. L'enchâssement juridique de la doctrine Gérin-Lajoie démontre d'ailleurs l'importance qu'elle revêt et que revêt le droit international auquel elle fait référence dans la vie de l'État québécois. Cette importance est évidente lorsqu'on examine l'évolution des engagements internationaux du Québec, mais également lorsqu'on étudie sa représentation extérieure. Dans l'énoncé de la doctrine, le ministre Gérin-Lajoie, le vice-premier, qui était aussi ministre de l'Éducation à l'époque, évoquait, je le cite, « la surprise qu'a causée la signature par la France et le Québec d'une entente sur l'éducation » et affirmait aussi que, et je cite à nouveau, « tout à fait conforme à l'ordre constitutionnel établi ». Il rappelait que face au droit international, en effet, le gouvernement fédéral canadien se trouve dans une position unique s'il possède le droit incontestable de traiter avec les puissances étrangères la mise en œuvre des accords qu'il pourrait conclure sur des matières de juridiction provinciale échappe à sa compétence législative. Fin de la citation. Après avoir rappelé que les rapports internationaux concernent tous les aspects de la vie sociale, M. Gérin-Lajoie énonçait la position du Québec sur les traités internationaux en ces termes. Je le cite, « C'est pourquoi, dans une fédération comme le Canada, il est maintenant nécessaire que les collectivités membres, qui le désirent, participent activement et personnellement à l'élaboration de conventions internationales qui les intéressent directement. Il n'y a, je le répète, disait M. Gérin-Lajoie, aucune raison que le droit d'appliquer une convention internationale soit dissocié du droit de conclure cette convention. Il s'agit de deux étapes essentielles d'une opération unique. Ainsi, le gouvernement du Québec affirmait, dès 1965, par la voix de son vice-premier ministre, que le Québec avait le droit de conclure des conventions internationales. Cette affirmation du « Ius Tractatuum » du Québec, dont Paul Gérin-Lajoie reconnaissait par ailleurs qu'il était limité aux matières ressortissantes à sa compétence constitutionnelle, était une réponse aux différends qui avaient d'ailleurs opposé à la même époque le Québec et le Canada relativement à une entente entre le Québec et la France sur un programme d'échange et de coopération dans le domaine de l'éducation du 27 février 1965. Une affirmation d'ailleurs qui se traduisait pour le Québec par la conclusion d'une nouvelle entente sur la coopération culturelle entre les mêmes gouvernements du Québec et gouvernement de la République française le 24 novembre 1965. bien qu'il n'y soit explicitement pas question dans l'énoncé du 12 avril 1965, la doctrine Gérard Lajoie connaîtra et connaît depuis une autre application, puisqu'elle sera le fondement du droit qu'affirme détenir le Québec et dont il dit être toujours titulaire, de donner au gouvernement du Canada son assentiment avant que celui-ci ne conclue des accords internationaux ressortissant de sa compétence constitutionnelle. D'ailleurs, ces applications de la doctrine Girin-Lajoie sont décrites aujourd'hui dans la loi sur le ministère des Relations internationales et le Ius Tractatum québécois a été renforcé en 2000 par l'adoption de l'article 7 de cette loi sur l'exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l'État du Québec. Cet article se lit ainsi: « L'État du Québec est libre de consentir à être lié par tout traité, convention ou entente internationale qui touche à sa compétence constitutionnelle. » Et l'article ajoute que dans ses domaines de compétence, aucun traité, convention ou entente ne peut l'engager à moins qu'il n'ait formellement signifié son consentement à être lié par la voie de son Assemblée nationale ou du gouvernement selon les dispositions de la loi. En 2002, la loi sur le ministère des Relations internationales subissait, et mon souvenir, si mon souvenir est bon, il s'agissait de l'époque où Louise Beaudoin était ministre des Relations internationales. La loi subit d'importants changements. Elle compte désormais un chapitre intitulé « Engagements internationaux » et contient des règles nouvelles relativement à la conclusion des ententes internationales du Québec et sur l'assentiment du Québec aux accords internationaux du Canada. D'ailleurs, selon les données du ministère des Relations internationales les plus récentes, le Québec a conclu à ce jour plus de 743 ententes internationales, dont 380 sont encore aujourd'hui en vigueur. Parmi celles-ci, il y a en particulier près d'une trentaine d'ententes de sécurité sociale, une vingtaine d'ententes multisectorielles de coopération. Les autres ententes touchent un grand nombre de domaines, tels la culture, le développement économique, les permis de conduire, les exemptions relatives aux frais de scolarité, qui ont fait parler d'elles ces dernières années, dont le délégué général Michel Robitaille, qui se joint à nous, a voulu défendre, je crois, lorsqu'il s'agissait de ces exemptions destinées aux étudiants de France qui viennent au Québec. D'autres ententes portent sur l'adoption internationale, l'environnement, les sciences de la technologie et les communications. S'agissant des accords internationaux du Canada qui ressortissent à la compétence constitutionnelle du Québec, le Québec a donné son agrément à la signature de nombreuses conventions internationales auxquelles le Canada est parti, notamment celles adoptées par l'ONU, par l'OIT, par l'OMS, par l'UNESCO, par l'OMC, par la Banque mondiale, ainsi que plusieurs conventions relatives à l'environnement, à la diversité biologique et au changement climatique. En 2002, de nouvelles règles ont aussi donné une dimension parlementaire à la doctrine Girin-Lajoie et ont institué un mécanisme d'approbation parlementaire des engagements internationaux importants du Québec. C'était un des changements de nouvelles règles qui visaient à démocratiser le processus de conclusion des engagements internationaux du Québec. Pour se distinguer, en outre, du Canada, qui ne prévoit pas d'intervention parlementaire dans le cas de traités dits importants. Et le Québec mettait donc en place, en 2002, donc il y a 14 ans, ce mécanisme qui confère, enfin, je dirais, un rôle à l'Assemblée nationale du Québec dans ce processus, comme l'Assemblée nationale française a un rôle dans le processus d'approbation des engagements internationaux de la France. Ainsi, la loi sur le ministère des Relations internationales du Québec prévoit-elle que certains engagements internationaux doivent, en raison de leur importance, faire l'objet d'une approbation par les députés. La loi sur le ministère des Relations internationales précise, et je la cite, qu'un engagement international important désigne l'entente, l'accord ou tout instrument se rapportant à l'un ou l'autre qui, de l'avis du ministre, selon le cas, requiert pour sa mise en œuvre soit l'adoption d'une loi ou la prise d'un règlement, soit l'imposition d'une taxe ou d'un impôt, soit l'acceptation d'une obligation financière importante, ou si une entente, un accord ou un instrument qui concerne les droits et libertés de la personne, qui concerne le commerce international ou qui devrait faire l'objet d'un dépôt à l'Assemblée nationale. Depuis 2002, le Québec a considéré que 54 accords et ententes se qualifiaient comme des engagements internationaux importants, soit un nombre égal d'ailleurs de 27 ententes internationales du Québec et 27 accords internationaux du Canada. Et à titre d'exemple, 14 conventions internationales multilatérales ont été approuvées par l'Assemblée nationale du Québec. Je vous cite notamment le protocole de Kyoto à la Convention cadre sur les changements climatiques, la Convention sur la protection et promotion de la diversité des expressions culturelles de l'UNESCO ou la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac de l'Organisation mondiale de la santé. Ainsi, se fondant à la fois sur le droit constitutionnel et le droit international, la doctrine Gérard Lajoie a engendré des règles de plus en plus élaborées relatives aux engagements internationaux du Québec et a amené celui-ci à légiférer pour prévoir des formalités par lesquelles le Québec entérine et ratifie lui-même ses propres ententes internationales et donne son agrément et un assentiment aux accords internationaux ressortissant à la compétence constitutionnelle du Québec. Mais cette doctrine, la doctrine Gérin-Lajoie, dont on a célébré d'ailleurs les 50 années d'existence l'année dernière, en présence de M. Jean Gérin-Lajoie, qui est un jeune homme de 96 ans, je crois, qui a tous ses moyens, qui a lui-même fait sa conférence lorsqu'il est venu commémorer les 50 ans de sa doctrine Gérin-Lajoie à l'École nationale d'administration publique l'année dernière. Sa doctrine n'est pas étrangère non plus aux multiples gestes qu'a posé le Québec pour assurer sa représentation extérieure. D'ailleurs, la doctrine Gérin-Lajoie révèle aussi la place de choix qu'a revêtue cette question de la représentation extérieure. Et je cite M. Gérin-Lajoie dans son énoncé de 1965. « Le Québec lui-même possède à l'étranger l'embryon d'un service consulaire grâce à ses délégués généraux qu'il représente. » et exerce des fonctions souvent analogues aux vôtres. Il parlait aux consuls qui étaient en poste au Québec. Dans les deux villes, Londres et Paris, disait-il, les délégués généraux du Québec bénéficient en pratique des immunités et privilèges que le droit et l'usage accordent habituellement aux fonctionnaires consulaires. Il y a également le droit de participer à l'activité de certaines organisations interétatiques de caractère non politique, disait-il à l'époque. Un grand nombre d'organisations n'ont été fondées que pour permettre la solution au moyen de l'entraide internationale de problèmes jugés jusqu'ici de nature locale. C'est ce que disait M. Gérin-Lajoie en 1965. Et donc, comme pour son Ius Tractatum, le Ius Legationis du Québec qu'il s'attribuait dès 1965, est aujourd'hui aussi consacré dans la loi sur les droits fondamentaux du Québec, qui prévoit que le Québec, et je cite la loi, peut également, dans ses domaines de compétences, établir et poursuivre les relations avec des États étrangers et des organisations internationales et assurer sa représentation à l'extérieur du Québec. D'ailleurs, aujourd'hui, la représentation extérieure du Québec se traduit par sa présence dans 28 pays et l'existence d'un réseau composé de 7 délégations générales, Bruxelles, Londres, Mexico, Munich, New York, Paris et Tokyo, 4 délégations, Boston, Chicago, Los Angeles et Rome, 9 bureaux, Barcelone, Beijing, Dakar, Hong Kong, Mumbai, Sao Paulo, Shanghai, Stockholm et Washington, 6 antennes, Atlanta, Berlin, Houston, Qingdao, Séoul et Silicon Valley, et 2 représentations en affaires multilatérales, la délégation aux affaires francophones et multilatérales ici à Paris et la représentation du Québec au sein de la délégation permanente auprès de l'UNESCO également ici à Paris, dont je parlerai tout à l'heure. Alors, si la question du Québec auprès d'États étrangers est digne d'intérêt et qu'elle a parfois donné lieu à des différends avec le gouvernement du Canada, c'est par ailleurs l'enjeu du statut de la présence du Québec au sein d'organisations internationales qui a suscité les plus importants débats. Cet enjeu, d'ailleurs, a acquis une importance majeure lorsqu'il s'est agi de déterminer la place qu'occuperait le Québec au sein de l'organisation internationale que les chefs d'État et de gouvernement de la francophonie avaient décidé de créer au tournant des années 1970. D'ailleurs, 6 ans après l'énoncé de la doctrine Gérin-Lajoie et avec l'appui décisif de la France, le Québec réussit à obtenir un statut de gouvernement participant prévu à l'origine dans l'accord de coopération culturelle et technique qui créait l'agence et précisé dans des modalités selon lesquelles les gouvernements du Québec est admis comme gouvernement participant aux institutions, aux activités et aux programmes de l'agence de coopération culturelle et technique, des modalités qui avaient été conclues avec le gouvernement du Canada. Le statut du Québec, de gouvernement participant du Québec, est aujourd'hui fondé sur la Charte de la francophonie. Et le Québec détient une large autonomie au sein de ses organes et des institutions de la francophonie. Elle se déploie également dans les travaux de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement ayant le français en partage, mieux connu comme le Sommet de la francophonie, en vertu d'une autre entente conclue avec le Canada sur le Sommet francophone le 7 novembre 1985 et dont les modalités ont été appliquées à l'ensemble des sommets de la francophonie. Sans avoir fait l'objet d'ententes intergouvernementales, d'autres modalités encadrent par ailleurs la participation du Québec aux travaux des autres institutions de la francophonie, à savoir l'Assemblée parlementaire de la francophonie, les quatre opérateurs directs, l'Agence universitaire de la francophonie, TV5, l'Université Senghor et l'Association internationale des maires et responsables des capitales et des métropoles partiellement ou entièrement francophones, ainsi que les deux conférences ministérielles permanentes, la CONFEMEN et la CONFEGES. Le statut du Québec dans la francophonie a donc permis au Québec de participer aux travaux de ces multiples institutions et les règles contenues dans des ententes intergouvernementales garantissent véritablement un droit de participation du Québec, dont on pourrait dire qu'il est protégé aussi par la Charte de la francophonie, qui est un instrument de droit international. Ce précédent a d'ailleurs amené, celui de la francophonie, le Québec, à réclamer une place au sein d'autres organisations internationales. Il adoptait d'ailleurs, le gouvernement, une déclaration concernant la participation du Québec aux forums internationaux traitant d'éducation, de langue, de culture et d'identité en mars 1999. Et 6 ans plus tard, le gouvernement revenait à la charge en 2005 avec un document de travail dans lequel il revendiquait notamment une place à l'UNESCO. D'ailleurs, un accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec sur l'UNESCO était signé le 5 mai 2006, donc il y a 10 ans. Il était d'ailleurs qualifié par le gouvernement d'accord aussi important qu'historique. Il a toutefois fait l'objet de critiques, y compris les miennes. J'étais à l'époque député à l'Assemblée nationale, critique de l'opposition officielle en matière de relations internationales. Et j'ai toujours cru que, contrairement à ce que le Québec avait obtenu dans la francophonie, un statut de gouvernement participant, le Québec n'obtenait qu'une simple présence d'un représentant du Québec au sein de la délégation canadienne. Et une lecture de cet accord et une comparaison de celui-ci avec les ententes et pratiques qui s'appliquent dans la francophonie m'ont amené à être très critique et à le demeurer, en dépit du fait que les représentants du Québec au sein de la représentation permanente du Canada, qui sont succédés, Michel Doucet, Lynn Beauchamp et Michel Jean, ou Lynn Beauchamp maintenant, qui sera bientôt remplacée par Julie Méville-Deschênes parce qu'elle va succéder Lynn Beauchamp à M. Robitaille comme délégué général du Québec, ont dit et ont affirmé que la place du Québec, la place qui lui était donnée, lui permettait d'avoir des rapports tout à fait étroits avec l'UNESCO et ses instances. Cet accord mérite sans doute d'être critiqué, mais il a tout de même donné au Québec un accès plus grand qu'il ne l'avait avant à l'UNESCO. Mais, vous savez, la question du droit international est une question qui a suscité de grands débats lorsqu'il s'est agi du statut politique du Québec. À 2 reprises déjà, comme vous le savez, les Québécois et les Québécoises ont voté lors de référendums les invitant à opter pour l'indépendance nationale. Lors du premier référendum du 20 mai 80, le camp des indépendantistes avait récolté 40,44% des voix. Et lors de la consultation populaire du 30 octobre 1995, à l'occasion duquel, et on en est toujours très fiers au Québec, 93,52% des électeurs et des électrices avaient exercé leur droit de vote. 93% des gens avaient voté, 49,48% des électeurs et électrices avaient appuyé le oui à la souveraineté. Il a été beaucoup question du droit international dans le cadre de ces deux référendums et les enjeux découlant de l'accession à la souveraineté ont été au centre de grands débats pendant ces deux campagnes référendaires. Il s'agissait certainement moins le cas durant le premier référendum, bien qu'il en a été question dans le livre blanc qui avait été déposé par René Lévesque et qui avait fait l'objet de débat pendant la première campagne référendaire. Mais c'est dans les années qui ont précédé le deuxième référendum du 30 octobre que le droit national a occupé une place presque prépondérante dans les débats sur l'accession du Québec à la souveraineté. Par exemple, des études nombreuses avaient été commandées par la Commission sur l'avenir politique et constitutionnel du Québec, la Commission Bélanger-Campeau, qui portait sur des aspects juridiques relatifs à l'accession à la souveraineté, sur la reconnaissance internationale, l'adhésion à des normes internationales, sur des traités de nature économique. Le droit national sera aussi très présent dans les travaux d'une autre commission parlementaire dite d'études des questions afférentes à l'accession à la souveraineté instituée en 1992 par l'Assemblée nationale. Et parmi les nombreuses études qui ont été commandées par la commission sur les attributs du Québec souverain, d'un Québec souverain ou les implications de la mise en œuvre de la souveraineté, des études abordaient la question de la nationalité, de l'immigration, des droits des minorités, des nations autochtones, des frontières terrestres et maritimes du Québec, ainsi que de l'intégrité territoriale, cette dernière question ayant fait l'objet d'une étude par une prestigieuse équipe d'internationalistes, dirigée d'ailleurs par notre collègue, le professeur Alain Pellet. Et d'autres études ont porté sur des questions d'autodétermination, de souveraineté, de constitution, de reconnaissance internationale et de succession en matière de traités. J'étais d'ailleurs l'auteur d'une étude d'envergure sur la succession du Québec au traité du Canada en cas d'accession à l'indépendance. Lorsque M. Parizeau prend le pouvoir en 1994, il commande, lui, de nouvelles études à un secrétaire à la restructuration et notamment des avis portant sur les traités et accords avec les États-Unis, des études sur la monnaie, le crédit et les institutions financières, ainsi qu'une analyse d'envergure sur des questions de défense dans un Québec souverain sont produites en 1994 et 1995. Pendant la campagne référendaire de 1995, de nombreuses questions et des nombreuses règles du droit international sont soulevées, notamment la question de la citoyenneté québécoise, de la possibilité d'une double nationalité dans l'hypothèse d'une accession du Québec à la souveraineté, la question de la succession du Québec à l'accord de libre-échange nord-américain fait l'objet de débats entre juristes américains, experts européens, et Canadiens et Québécois. D'ailleurs, l'avant-projet de loi de la souveraineté qui avait été présenté par M. Parizeau le 6 décembre 2004 et qui se transforme en projet de loi numéro 1 sur l'avenir du Québec fera également référence au droit international dans des dispositions qui portaient sur le territoire et sur la succession d'États au traité. Mais, vous savez, après la défaite référendaire, ou je dirais, dans mon camp, on dit plutôt la quasi-victoire des tenants de l'indépendance nationale du Québec, la question du droit national revient, puisque même avant la période référendaire, il y a eu une tentative de stopper la tenue du référendum par une injonction, parce que ce référendum aurait pu mettre en péril les droits fondamentaux des Québécois. Et les années qui suivent sont des années de grands débats judiciaires sur la portée du droit à l'autodétermination des peuples qui se transporte d'ailleurs devant la Cour suprême du Canada, puisque le gouvernement du Canada soumet à la Cour suprême du Canada une demande d'avis consultatif pour demander aux 9 juges de la Cour suprême si le Québec détient un droit de faire sécession unilatéralement en vertu du droit international ou en vertu du droit constitutionnel. Et la réponse de la Cour suprême du Canada est une réponse qui surprend. D'ailleurs, les internationalistes et les constitutionnalistes. Elle dit que le droit international ne peut pas soutenir un droit de faire sécession unilatéralement. La Cour examine l'idée du droit de sécession remède, mais elle dit que le Québec ne remplirait pas les conditions dans lesquelles un peuple pourrait invoquer ce droit de sécession. Mais, de façon assez surprenante, il dit oui, le Québec a un droit de sécession, il a le droit de chercher à réaliser la sécession en vertu du droit constitutionnel canadien, fondé sur des principes constitutionnels du fédéralisme et de la démocratie. Et cet avis est un avis important parce qu'aujourd'hui encore, on peut, lorsqu'on est indépendantiste notamment, se fonder sur cet avis pour dire que le Québec a un droit d'accéder à l'indépendance politique. Mais cet avis ne plaît pas beaucoup au gouvernement du Canada qui fait adopter dans les mois qui suivent une loi dite de la clarté, dans laquelle il laisse entendre qu'il a un mot à dire à la fois sur la clarté de la question et la clarté de la majorité, et où il semble surtout enchâsser cette obligation de ne pas négocier l'accession à la souveraineté si telle était la volonté de Québécois à qui on aurait posé une question qui n'était pas claire et où une majorité qui ne l'était pas non plus aurait voté en faveur de la souveraineté. Et cet avis, cette loi sont suivis au Québec par l'adoption d'une loi à laquelle j'ai déjà fait référence, la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l'État du Québec, une loi qualifiée par le premier ministre de l'époque, Lucien Bouchard, comme charte des droits collectifs, une loi dont je vous cite les trois premiers articles pour montrer que le Québec affirme son droit de décider librement de son statut politique. L'article 1er de cette loi dit « Le peuple québécois peut en fait et en droit disposer de lui-même. Il est titulaire des droits universellement reconnus en vertu du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes. » L'article 2 affirme quant à lui que le peuple québécois a le droit indéniable, inaliénable, devrais-je dire, inaliénable, de choisir librement le régime politique et le statut juridique du Québec. Et l'article 3 dit « Le peuple québécois détermine seul par l'entremise des institutions politiques qui lui appartiennent en propre les modalités de l'exercice de son droit de choisir le régime politique et le statut juridique du Québec ». Et cet article continue en disant « Toute condition ou modalité d'exercice de ce droit, notamment la consultation du peuple québécois par un référendum, n'a d'effet que si elle est déterminée suivant le premier alinéa ». Et lus ensemble, ces trois articles se veulent ainsi une réponse à cette négation implicite du droit du Québec de disposer de lui-même et aux exigences et conditions que semble vouloir imposer le Canada par sa loi sur la clarté au Québec pour que celui-ci exerce son droit démocratique de chercher à réaliser l'indépendance du Québec. Les dispositions de cette loi sur les droits fondamentaux mettent donc en lumière le fait que celle-ci est sur une voie de collision avec la loi sur la clarté. Elle définit donc implicitement ou explicitement les modalités de l'exercice du droit du Québec de choisir de son régime. Et d'ailleurs, cette collision et ce débat juridique n'est pas terminé parce que, encore aujourd'hui, en 2016, il y a un recours pendant devant les tribunaux invitant les tribunaux à déclarer inconstitutionnels ces trois premiers articles et un autre article de cette loi parce que cette loi, si le Québec pouvait devenir indépendant, pourrait mettre en péril les droits constitutionnels des Québécois et notamment leurs droits fondamentaux. Je pourrais en dire un peu plus long dans notre période d'échange. Et je conclue, Monsieur le Président, chers membres de l'Académie, depuis le prononcé du discours de Paul Gérin-Lajoie devant le corps consulaire le 12 avril de 1965, on constate que le Québec a donné de véritables assises juridiques à ses relations internationales et a cherché à s'appuyer sur le droit international à cette fin. Le Québec assume aujourd'hui des engagements internationaux multiples et se déploie par une représentation extérieure au sein de la communauté internationale. Le Québec est par ailleurs et encore aujourd'hui appelé à défendre son droit à disposer de lui-même et de faire échec à un système constitutionnel canadien, qu'il s'agisse de la loi sur la clarté ou de la loi constitutionnelle de 1982, y compris la Charte canadienne des droits et libertés, dont il faut rappeler qu'elles ont été adoptées sans le consentement du gouvernement, du Parlement et du peuple du Québec, qui cherche à porter atteinte à son droit de choisir. Comme l'a écrit Charles-Louis de Secondat, baron de la Brède et de Montesquieu, dans la préface de l'Esprit des lois, que vous aimez, je crois, citer ici, à l'Académie des sciences morales et politiques, dont vous aimez rappeler la mémoire, et je le cite, « J'ai d'abord examiné les hommes et j'ai cru que dans cette infinie diversité des lois et de mœurs, ils n'étaient pas uniquement conduits par leur fantaisie. J'ai posé les principes et j'ai vu les cas particuliers s'y plier comme d'eux-mêmes. Les histoires de toutes les nations n'en sont que des suites. » Messieurs, Madame, les membres de l'Académie, les Québécois et les Québécoises ne sont pas uniquement conduits par des fantaisies lorsqu'ils veulent que le Québec consente de façon pleine et entière à des engagements internationaux, lorsqu'ils veulent assurer de façon distincte et libre leur représentation extérieure, mais également lorsqu'ils veulent assurer leur développement économique, social et culturel, en l'inscrivant d'ailleurs dans le sillon du droit international. Mais aussi, et plus globalement, les Québécois et les Québécoises veulent être libres de choisir leur statut politique. Et ce consentement, cette assurance, ce choix ne seront possibles, à mon avis, que si le Québec choisit la voie du pays. C'est l'accession du Québec à l'indépendance nationale qui fera du Québec ce qu'il devrait être, un véritable sujet de droit international. Merci.
Eh bien, je vous remercie infiniment à la fois de cet exposé, juridique approfondi et de cette profession de foi par laquelle vous avez terminé cet exposé. Je voudrais ajouter que je suis heureux de saluer parmi nous M. Michel Robitaille, qui nous a rejoint, qui est délégué général du Québec à Paris. Et maintenant, nous allons passer, si vous le permettez, aux questions. Monsieur de Saint-Cernin.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je risque de poser une question qui est un petit peu éloignée de votre profession de foi, mais j'étais, il y a un peu plus de 40 ans, recteur de l'Académie de Dijon, et à cette époque-là, en vertu d'accords que vous avez vous-même indiqués, chers collègues, nous avons reçu des professeurs québécois, des chefs d'établissement québécois du second degré, des proviseurs de lycée et des principaux de collège. Et la réaction de leurs collègues français était une réaction un petit peu d'effroi, parce qu'ils trouvaient que les Québécois étaient laxistes. Et au fond, ils trouvaient que la façon dont ils considéraient l'enseignement et l'organisation des établissements du second degré ne correspondait pas du tout à la manière française de procéder. Alors, la question que je voulais vous poser est la suivante. Est-ce que la crainte des chefs d'établissement français était simplement dû au fait qu'ils ne connaissaient pas la manière nord-américaine et canadienne de valoriser les enfants et les adolescents et donc de leur donner le sens d'affirmer leur personnalité, y compris par l'échec, ou bien est-ce qu'il y a eu à l'intérieur du Québec une transformation de la vie des établissements scolaires et aussi des universités?
Alors, effectivement, les méthodes sont très différentes. Mais ce n'est pas seulement à l'école primaire, secondaire ou dans nos collèges d'enseignement généraux et professionnels, nos fameux cégeps, mais aussi à l'université. Ayant été moi-même un étudiant ici à l'Université de Paris 2, ayant vu les méthodes de mes enseignants, qui par ailleurs étaient d'extraordinaires internationalistes, je pense à Paul Reuter, Michel Virali, Prosper Veil, de grands internationalistes, cette distance qu'on crée entre le professeur, l'enseignant et l'élève ou l'étudiant n'existent pas au Québec. Et c'est peut-être le produit de cette révolution tranquille, de cette grande réforme de l'enseignement qu'on a connue seulement, nous, au début des années 60, avec le rapport Parent, qui est à l'origine de cette relation de proximité qu'on a voulu établir avec, avec les apprenants, on dirait d'ailleurs aujourd'hui, les grands spécialistes de la pédagogie. Et donc, effectivement, l'approche est très différente. Vos chefs d'établissement avaient raison de penser que c'était différent. Et ceux qui sont venus au Québec comme coopérants, de très nombreux enseignants français sont venus au Québec dans nos établissements d'enseignants, ont dû se rendre compte de cette différence. Alors, quelle est la meilleure méthode? Peut-être ce sont les résultats des étudiants. C'est la compétence qu'ils acquièrent à l'école qui fait une différence. Mais j'ai toujours pensé à moi que la relation de proximité, une relation qui est moins d'autorité, mais davantage de respect de l'élève, en est une qui produit de bons, peut-être même de meilleurs résultats.
Très bien, merci beaucoup.
Je vous remercie beaucoup. Monsieur Casanova.
Merci, Monsieur le Président. Ma question est d'ordre politique. La question de la souveraineté qui affleure tout au long de votre exposé, mon cher collègue, m'amène à vous poser la question suivante, qui consiste au fond, comment est composé le corps électoral qui devrait se prononcer sur un futur référendum. La Constitution française, étrangement, a des dispositions concernant la Nouvelle-Calédonie qui, au contraire de ses principes fondamentaux, gèle sur une base ethnique le corps électoral de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que le Québec est souverain en matière d'immigration? Première question. Deuxièmement, une immigration inconsidérée de pseudo ou de quasi-francophones n'aboutira-t-elle pas à terme à l'impossibilité totale d'un référendum en faveur du Québec libre?
Alors, d'abord, pour répondre à votre question sur la compétence en matière d'immigration, alors la loi constitutionnelle de 1867 prévoit que l'immigration est une compétence partagée entre le Parlement du Canada et le Parlement du Québec, avec une prépondérance fédérale. Et au moment où on se parle, la compétence est véritablement partagée et l'a été en vertu d'une entente intergouvernementale entre le Canada et le Québec. La première date du début des années 70, je crois que c'était l'entente Colonne-Couture, et il y a maintenant une entente MacDougall-Gagnon-Tremblay qui prévoit que, par exemple, le Québec a des compétences en matière d'accueil et d'intégration des immigrants, et il a même des compétences en matière de sélection des ressortissants étrangers, mais pas une compétence exclusive. L'essentiel de la compétence, lorsqu'il s'agit de la sélection, appartient au gouvernement canadien. Et donc, le choix des immigrants et des immigrantes qui s'établissent au Québec est quelque chose sur le Québec a un droit de regard, mais pas une compétence exclusive. Ce qui inquiète certains, parce que là, on laisse entendre qu'on veut faire immigrer des gens qui, au Québec, au moment où il y aurait un autre référendum, voteraient non parce qu'ils viennent au Canada, ne veulent pas trahir leur pays, le pays qui les accueille, et donc choisir l'indépendance. Mais moi, j'ai toujours pensé, puis on est dans le mouvement indépendantiste, mais je pense au Québec en général. Ou d'ailleurs, vous savez, la question de la souveraineté pose ou suscite des débats très sains, des débats éminemment démocratiques entre les gens qui sont favorables et les adversaires. C'est ce dont je suis très, très fier au Québec. Quand il y a des débats sur cette question, ils se font dans un contexte où il y a un respect mutuel des gens qui ont des opinions fondamentalement différentes et où la société, comme vous l'avez vu à la lumière du résultat de 1995, est très divisée, là, 50-50 ou à peu près. Et le corps électoral du Québec, là, il est composé pas de ces 8,294,656 âmes, là, ça c'est la population actuelle du Québec au 1er janvier 2016, ou en tout cas la projection de notre Institut de statistique de la Québec. Sur cela, il doit y avoir, je ne sais pas combien, le corps électoral, ça doit faire 6,5 millions de personnes qui ont plus de 18 ans. C'est un corps unique. Tous les Québécois, quelles que soient leurs origines, leur langue, leur religion, ont le droit de voter dans une élection et dans un référendum. Leur voix compte. Ils ont chacun une voix. Et donc, le corps électoral n'est pas basé sur un critère ethnique. Et moi, j'ai toujours été de ceux, il y a d'autres qui le croient, qu'il est possible de convaincre des Québécois de toutes origines de choisir l'indépendance et que ceux qui ne la veulent pas, ne le souhaitent pas, peuvent tenter de convaincre de la même façon les gens de maintenir le Québec au sein du Canada. Oui, on a besoin de chance, mais on a surtout besoin de convaincre.
Mais je me demande si une question qu'avait en tête notre confrère n'est pas de savoir si l'évolution démographique au sein du Québec rend les chances de l'indépendance de moins en moins vraisemblables. Je crois que c'était ça, la question.
Mais c'est une question qui est souvent posée, puis qui amène des gens, justement, à avoir des objections à l'idée de faire émigrer d'autres personnes au Québec, parce qu'elles ne seraient pas favorables à terme à l'indépendance du Québec. Et vous savez, moi, je me fonde sur l'évolution du soutien à l'indépendance. Entre 1980 et 1995, beaucoup de personnes ont émigré au Québec et de toutes origines. Et l'appui à la souveraineté est passé de 40,44 à 49,52. Et ça pourrait se produire à nouveau, un référendum et une évolution allant dans le même sens. Ce qui est important pour moi, et pour la plupart d'entre nous, mais il y a des gens qui effectivement disent « Ah, on devrait avoir moins d'immigrants, on devrait peut-être même plus en avoir du tout pour un jour permettre que le Québec devienne un État indépendant ». Ça, je suis en total désaccord avec cette vue, et je crois qu'il faut mériter l'indépendance par une argumentation qui justifiera pourquoi, les bonnes raisons pour lesquelles le Québec devrait se joindre au concert des nations.
Je vous remercie. Monsieur Trichet.
Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci pour cet exposé très, très remarquable. Votre position est évidemment d'une très grande clarté, donc considérez ma question comme réellement problématique. Mais ce que j'ai noté, c'est que l'un des arguments des opposants à l'indépendance était qu'au total, le français, c'est leur argument, y perdrait, car la Fédération canadienne n'aurait plus à être bilingue. Et donc on aurait bien, en effet, un pays très francophone, entièrement francophone peut-être, au Québec, mais plus un continent entier qui, au moins au niveau de sa fédération, de son gouvernement fédéral, de ses institutions fédérales, et au niveau aussi de quelques autres provinces dans lesquelles le français est minoritaire, donc on n'aurait plus, ce soutien très fort. Je ne dis pas du tout que je partage moi-même ce sentiment, mais je le rencontre très souvent, je dois dire, dans les conversations internationales que je peux avoir. Comment commentez-vous cet argument ?
Alors, mon premier commentaire est que, à mon avis, l'indépendance du Québec contribue à renforcer le statut de la langue française au Québec. On a fait des progrès remarquables, mais c'est un combat de tous les jours, là, le français au Québec. Et avec, d'ailleurs, l'immigration, c'est un défi, à Montréal en particulier, de convaincre des personnes qui émigrent d'abord et avant tout au Canada, qui est un pays de deux langues officielles, de choisir le français comme langue de travail, comme langue qui sera utilisée à la maison, parce qu'ils sont dans un pays de deux langues officielles, dont l'anglais, et un continent nord-américain, là où il y a 330 millions de voisins du Sud qui parlent anglais. C'est la langue de la mobilité au sein de l'Amérique du Nord et du monde, maintenant, l'anglais. Alors, vous savez que c'est très difficile. Notre charte de la langue française, qui oblige d'ailleurs les enfants des migrants à fréquenter des écoles de langue française, c'est obligatoire. On nous reproche ça, on essaie de déclarer inconstitutionnel de façon régulière notre charte de la langue française et ses dispositions à la matière et en d'autres matières. Alors, le message d'ailleurs qui est souvent envoyé aux immigrants, c'est qu'ils sont dans un pays de deux langues. Ils peuvent faire le choix. Vous savez que pour obtenir la citoyenneté canadienne, même si on réside au Québec, si on choisit le Québec comme province où on va vivre comme nouveau citoyen, on n'est même pas obligé de faire la démonstration que l'on possède et on maîtrise la langue française. Il s'agit de prouver qu'on maîtrise l'une des deux langues officielles. Et si on maîtrise l'anglais, on va obtenir la citoyenneté canadienne. Alors, donc, l'indépendance du Québec pourrait faire que ce soit clair. Quand on vient au Québec, c'est en français que ça se passe, c'est la langue commune, et que pour devenir citoyen québécois, on doit maîtriser, ou en tout cas avoir une connaissance de la langue française. Je pense que la France connaît ce problème-là maintenant, ou est exposée à un problème analogue à celui que le Québec vit depuis très longtemps lorsqu'il s'agit du choix par les gens qui viennent, que le pays adopte, que la France adopte, de la langue française. En revanche, vous savez, moi j'ai toujours été préoccupé par l'avenir de la francophonie hors Québec, par l'avenir des communautés francophones et acadiennes à l'extérieur du Québec, qui craignent effectivement l'indépendance du Québec parce que il y aurait un nouveau pays de 8 millions d'habitants francophones et l'autre pays, les Canadiens, sans le Québec, aurait beaucoup moins de francophones. Mais il y en aurait encore, et beaucoup. Et le Canada, qui se targue d'être un pays qui respecte ses minorités, qui a deux langues officielles, en quoi serait-il justifié qu'il renonce ou qu'il continue de protéger la minorité francophone et les minorités francophones qu'il y a dans toutes les provinces? Ce serait, je crois, un gage de sincérité, ou en tout cas, ce serait un acte qui serait tout à fait conforme à ses convictions actuelles que de maintenir la protection des droits linguistiques des autres francophones qui vivent au Canada. Mais je crois que le Québec, dès 1967, avec Jacques-Yvan Morin, votre membre correspondant, qui est mon maître à penser, un homme remarquable que j'admire, Monsieur Morin, qui avait présidé les États généraux en 1967, à des États généraux qui avaient décidé, en effet, de dire que le Québec et son territoire étaient maintenant le foyer d'un peuple, d'une nation qui a ses propres aspirations, distinctes des autres francophones du Canada. Sans les abandonner, il ne voulait pas que son destin soit nécessairement et seulement lié au destin des autres francophones et qu'il soit un peu pris en otage par d'autres parlants français qui diraient « ne faites pas l'indépendance parce que ce sera à notre désavantage ». Et j'ajouterais, je voudrais terminer quand même là-dessus, on a donc aussi au Québec des leçons à apprendre des défis à l'égard des minorités. La minorité nationale anglo-québécoise dans un Québec souverain aura des droits collectifs, des droits individuels pour les membres qui appartiennent à cette communauté qui est importante, qui a son rôle dans un Québec souverain, qui a des droits maintenant qui seront maintenus. Et peut-être la sécurité que doterait l'indépendance au Québec amènera le Québec à conférer même des droits supplémentaires, des garanties encore plus importantes à sa propre minorité, sans parler aussi des droits collectifs et des droits des personnes appartenant aux nations autochtones qui sont également très importants.
Je vous remercie. Monsieur le secrétaire perpétuel.
Je vous remercie, Monsieur Turp, de ce que vous dites sur la francophonie. Et vous avez raison de croire, en effet, que la situation du Québec n'influerait pas durablement sur la francophonie en Acadie, au Nouveau-Brunswick. C'est à Caraquet que s'est tenue une fois une réunion de la Confémen. Et on n'y voyait pas de difficultés particulières. Mais ce n'était pas le sens de ma question. Ma question était celle-ci. Telle que vous le présentez, même si on entend évidemment votre voix très favorable à un Québec libre, on a l'impression quand même que les conflits se sont apaisés. Et en particulier que le dispositif qui permet depuis 2002, si j'ai bien compris, à l'ensemble des conventions internationales que passe le Canada de recevoir l'agrément ou le consentement du Québec a beaucoup lissé, me semble-t-il, les conflits. Mais est-ce qu'il s'est produit dans ces dernières années de situations où le Canada, passant un accord international ou une convention internationale de quelque nature que ce soit, s'est trouvé ne pas recevoir l'agrément ou le consentement du Québec? Et dans ce cas-là, Que se passe-t-il? Qu'est-ce que ça produit comme effet? Est-ce que cette disposition particulière, si elle existe, a une conséquence?
Très bonne question. Très intéressante au plan du droit constitutionnel canadien ou du droit intergouvernemental canadien. Lorsque le Québec a, dès 1972, dit qu'il avait un droit de regard sur les accords internationaux du Canada qui ressortissent de la compétence constitutionnelle du Québec, ce qui était d'ailleurs lié juridiquement à un avis du comité judiciaire du Conseil privé de 1937 qui prévoit explicitement que lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre des traités, la compétence est partagée. Le Parlement du Canada ne peut pas adopter de loi de mise en œuvre à l'égard de traités qui portent sur des matières de compétences provinciales. Et le Québec a toujours fondé son droit de mettre en œuvre lui-même les traités, d'adopter des lois sur cet avis. Mais comme M. Gérin Lajoie disait, si l'on a cette compétence, on devrait avoir un droit de regard là, sur les accords du Canada. Et donc, dès 1960, on a affirmé ce droit de regard et on a dit qu'on avait un droit de contribuer à la négociation puis, et donner son assentiment. D'ailleurs, aujourd'hui, quand il s'agit d'un traité international du Canada qui porte sur des compétences constitutionnelles du Québec, le gouvernement du Québec adopte un décret dans lequel il se déclare lié lui-même par une convention internationale. Et il envoie une copie de ce décret à Ottawa pour dire « Ah, là, maintenant, vous pouvez ratifier ce traité parce que je l'ai adopté ». Et récemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a cette compétence dévolue à l'Assemblée nationale qui doit approuver des engagements importants lorsqu'ils ressortissent la compétence constitutionnelle du Canada. Depuis cette époque, il n'y a pas eu formellement de désaccord du Québec. Et donc, il n'y a pas eu de bras de fer entre le Québec et le Canada au sujet d'accords internationaux du Québec que le Canada voulait ratifier, qui portaient sur les compétences du Québec. Alors là-dessus, c'est vrai qu'il y a eu une espèce d'apaisement. Mais je vais vous donner un exemple très récent, où il y a eu un problème, mais qui n'a pas fait l'objet de grands débats. C'est le Canada de M. Harper, là, a dénoncé le protocole de Kyoto. Le seul pays, d'ailleurs, à l'avoir fait. Ce protocole, d'ailleurs, existe encore, il est encore en vigueur, il sera remplacé dans quelques années par l'accord de Paris, qui a été... Ah, peut-être le président Guillaume est moins optimiste que moi, là, pour la ratification de l'accord de Paris. On verra. Mais, vous savez, le Canada avait décidé de dénoncer ce protocole. Et c'est un protocole que le Québec avait, auquel il s'était déclaré lié, et qu'il avait fait approuver par son Assemblée nationale. Et là, le gouvernement du Canada, unilatéralement, dénonce ce traité, sans le consulter, sans tenir compte du fait que le Québec s'était déclaré lié, avait approuvé par son Assemblée nationale l'accord. Et donc, on était dans une situation, et on est encore aujourd'hui dans une situation très, très paradoxale. Le Québec, aujourd'hui même, est encore lié par le protocole de Kyoto. Il s'est déclaré lié. Le Canada ne l'est plus. Justin Trudeau, nouveau premier ministre, est beaucoup plus favorable à son contenu. Il ne l'a pas ratifié à nouveau parce qu'il y a maintenant l'accord de Paris. Mais il y avait un conflit potentiel. Mais vous savez, aujourd'hui, on tente à réduire les risques de gestes qui pourraient favoriser les indépendantistes et les mouvements indépendantistes au Québec. Et donc, il y a une très grande accalmie sur le front constitutionnel parce que personne n'ose maintenant de faire de propositions de nature constitutionnelle au cas où il y aurait d'autres échecs dont je n'ai pas parlé, celui de l'accord du Lac-Mi, celui de l'accord de Charlottetown, qui ont vraiment... C'est favoriser le mouvement indépendantiste dans les années 90.
Bien, glissez mortel, n'appuyez pas. Monsieur le vice-président.
Merci, président. J'ai été également extrêmement intéressé par votre exposé. Monsieur, j'avais trois questions à vous poser. La première, l'Union européenne est actuellement dans une période dans laquelle elle s'interroge sur un éventuel Brexit et... dans les analyses qui sont présentées, les conséquences économiques d'une éventuelle séparation sont assez largement soulignés de part et d'autre, et puis globalement. Qu'en est-il au Canada? C'est-à-dire, est-ce que une sortie du Québec poserait des problèmes plus graves au Québec qu'au reste du Canada, ou moins graves? Et globalement, quelles en seraient les implications pour l'ensemble, si je puis dire, des partis? Ce sont des analyses que nous faisons actuellement pour le Brexit. Ma deuxième question est relative aux évolutions démographiques. Pendant très longtemps, le Québec connaissait une démographie, si je puis dire, spontanée, galopante. Ce mouvement s'est interrompu, à ma connaissance, dans les années 60. Je voulais vous demander si, actuellement, il y a une différence significative en matière démographique hors immigration entre le Québec et le reste du Canada. Et puis ma troisième question est relative aux questions d'éducation. Actuellement, les universités du Canada sont considérées par les Européens un peu à l'égal des autres universités d'Amérique du Nord, c'est-à-dire les universités américaines. Et donc, un certain nombre d'Européens s'orientent plutôt vers les universités canadiennes que les universités américaines, parce qu'elles fournissent une formation équivalente et moins onéreuse en termes de droits de scolarité. Je voulais vous demander si ceci a des conséquences sur, si je puis dire, la place du français à l'intérieur des universités américaines, canadiennes, que ce soit dans la partie québécoise ou dans la partie non québécoise. Merci.
Très bien. Merci, Monsieur le Vice-président. Alors, la première question, ça me permet de commenter l'actualité, le Brexit, la séparation. Le président Hollande, hier, j'ai entendu cette allocution qu'il a faite aux côtés d'Angela Merkel. Et lorsqu'il a parlé de l'Union européenne, a fait allusion à la séparation. Je crois que c'était une allusion assez directe à la situation actuelle au Royaume-Uni, en tout cas au débat actuel au Royaume-Uni et au référendum du 23 juin prochain. Et j'aurais un commentaire à faire là-dessus. Vous savez, depuis 1968, là, lorsque M. Lévesque, René Lévesque, avait fondé le Parti québécois qui fusionnait un certain nombre de mouvements et de partis indépendantistes, avait rédigé Option Québec, qui est une espèce de livre pionnier dans l'histoire du mouvement indépendantiste. Il promeuvait un projet d'indépendance du type européen. Hein, c'était vraiment formidable de lire ce que M. Lévesque écrivait. Il connaissait déjà et s'intéressait à l'évolution des communautés européennes de l'époque. Et il disait, si le Québec devient indépendant, il doit devenir un État indépendant dans une relation très privilégiée avec le Canada. Il appelait même ça l'Union canadienne, M. Lévesque. Il disait que le Québec devait, après son indépendance, faire partie d'une union canadienne où il y aurait des institutions communes. Alors, c'est d'ailleurs ce qui m'amènerait, même moi, si j'étais britannique, écossais, je voterais contre le Brexit. Moi, je ne serais pas en faveur du Brexit, parce que moi, je crois à l'indépendance dans l'interdépendance, dans l'exercice en commun, comme dit votre Constitution française, de compétences avec l'Union européenne. Je crois que c'est ça la voie de l'avenir. C'est toujours la voie de l'avenir. Je ne sais pas ce qui va arriver le 23 juin. En tout cas, je peux vous dire, les Écossais, eux, vont voter non au Brexit. C'est assez clair, 60% des Écossais veulent voter non au Brexit, veulent rester dans l'Union, même s'ils veulent l'indépendance de l'Écosse pour 45% d'entre eux au dernier référendum.
Mais référendum de plus, ils
seront 49,5. Oui, c'est ça. Et peut-être ça va être la faute des Écossais s'il n'y a pas de Brexit. Alors là, on va les mettre dehors, les Écossais. On va les mettre dehors. Mais pour revenir à votre question, mais je crois que cette question me permettait de commenter ce qui est important, là. C'est ce qui se passe au Royaume-Uni, c'est très important pour l'avenir de l'Union et de cette Union qu'on veut moins étroite au Royaume-Uni, lorsqu'il s'agit de cette union sans cesse plus étroite des peuples d'Europe, là, consacrée par les traités. Au plan économique, le Québec est et sera viable comme un État indépendant et souverain. M. Charest, le Premier ministre très fédéraliste du Québec l'a dit, l'a affirmé, je pense que c'était même ici à Paris, où lui, on ne peut pas ne pas reconnaître que la viabilité d'un pays qui serait, je crois, au moment où on se parle, entre le 25e et le 30e pays le plus important au monde lorsqu'il s'agit du produit intérieur ou du produit national brut. Mais là, on dit, il y aurait des conséquences économiques fâcheuses, longtemps, pas longtemps. C'est un argument pour inviter les gens à voter. Non, c'est du type d'un argument, c'est apologétique, ça convainc, mais ce n'est pas un argument sérieux, si vous voulez mon avis. Pas plus qu'il n'est sérieux pour le Brexit. C'est vraiment un argument qui est de peur. Et le Royaume-Uni, je pense, s'en sortirait assez bien, même s'il y avait le Brexit au plan économique. Et c'est ça qui est très difficile dans un débat démocratique. Lorsqu'on abuse des arguments et qu'on utilise la peur pour convaincre les gens de ne pas choisir une option plutôt qu'une autre. Alors, pour l'évolution démographique et les différences avec le reste du Canada, je pense que, je ne sais pas, devant mon épouse, là, je pense que le taux de natalité du Québec et du reste du Canada est à peu près similaire, 1,6. C'est beaucoup moins qu'en France et que dans d'autres pays d'Europe. Au Québec, le taux de natalité des personnes qui ne sont pas français ou francophones d'origine est plus élevé, ce qui est aussi le cas dans le reste du Canada lorsqu'il s'agit des personnes qui ne sont pas de souche britannique. Mais c'est très équivalent. De là, l'importance de l'immigration pour assurer le maintien de la capacité démographique d'occuper des emplois et de faire vivre le pays. Alors, et ces évolutions démographiques font quand même que le Québec approche maintenant du 10 millions d'habitants qu'il va atteindre, je pense, dans une dizaine d'années. Le Canada est autour de 35 millions d'habitants maintenant, ce qui fait du Québec et du Canada des pays qui peuvent durer, qui sont capables d'assumer un développement durable. Et pour les universités? Les universités, vous savez, moi, devant vous, vous prenant témoin, je remercie la France. Elle m'a éduqué. Elle m'a donné un doctorat avec les meilleurs professeurs du monde en droit international. Et je les cite, j'en parle devant mes étudiants. Je les invite à venir étudier en France, de faire des diplômes de vos grandes universités françaises ici à Paris et partout sur ce territoire. De grandes universités accessibles, parce que gratuites ou presque. Mais nous avons hérité de la France cette idée que l'éducation, même universitaire, devait être accessible, devait être quasi gratuite. Mais elle n'est pas gratuite. D'ailleurs, il y a 2 ans ou 3 ans, il y a eu une grève, des manifestations monstres d'étudiants soutenus par les professeurs, y compris moi-même. On portait des carrés rouges pour soutenir les étudiants dans leur demande de la gratuité à l'université, que le Québec devait choisir politiquement d'offrir la gratuité aux étudiants d'ici, du Québec, et d'ailleurs aussi, comme vous le faites ici en France. Parce qu'on voulait augmenter de façon assez dramatique les frais de scolaire. On voulait les doubler à l'époque. Puis, heureusement, ce ne s'est pas produit. Mais on n'a pas encore la gratuité. Vous l'offrez aux générations futures, comme l'Allemagne, le Liban, beaucoup de pays font ce choix politique, qui est à mon avis le meilleur choix. Et au Canada anglais, il y a maintenant la tendance américaine de faire des études universitaires, c'est un objet presque de lucre qu'il faut payer. Il faut payer des frais de scolarité très, très importants. Mais dans l'Université de Toronto, par exemple, la faculté de droit, il faut payer des frais de scolarité qui sont presque aussi importants que ceux qu'on doit payer à Harvard, à Columbia, à Cornell. C'est 45 000 $ par année en seuls frais de scolarité, ce qui rend beaucoup moins accessible l'éducation universitaire. Alors là-dessus, moi, j'espère qu'on va continuer de suivre votre exemple et j'espère surtout que vous allez continuer à nous donner l'exemple. Puis que vous allez aussi continuer en France, dans vos universités, à enseigner en français. Parce que d'outre-mer, on voit des institutions françaises, des grandes institutions c'est choisir l'anglais comme langue d'enseignement, comme si il n'y en avait pas de l'autre côté de la Manche des institutions qui enseignent en anglais, en langue anglaise, et qu'il n'y en avait pas au sud du Québec et du Canada. Choisir cette voie, c'est très dangereux pour l'avenir de la langue française, de notre langue commune. Et au Québec, il y a des institutions qui, elles aussi, ne résistent pas à cette tentation de faire des programmes en anglais pour accueillir dans ces pays dont le français est la langue officielle, des étudiants de partout dans le monde, comme si on ne devrait pas les accueillir en français et les éduquer en français.
Je vous remercie de cette profession francophone et je donne maintenant la parole à M. Le Villain.
Merci, M. le Président. Monsieur, j'étais très éduqué par votre exposé. Je vous posais deux questions d'historien qui sont de pure curiosité. Je voudrais savoir si, selon la version historique québécoise, la fameuse intervention et le cri du général de Gaulle, les bras levés, est considérée comme une inspiration, ou si au contraire elle avait été longuement préparée, préméditée, annoncée et attendue. Mon camarade Michel Bruguière, qui était à l'époque aux affaires, m'a soutenu fermement que cette déclaration n'était pas du tout improvisée, et qu'elle provenait véritablement non pas d'une concertation, mais en tout cas d'une annonce qui avait été non seulement acceptée, mais encouragée. Et c'est donc ma première question. Mais je pars selon le point de vue du Québec. Et ma seconde question est la suivante, et elle recoupe la première. Quel fut le retentissement de cette proclamation si gaullienne, si gaulliste et gaullienne, sur la suite de l'histoire du Québec, et encore aujourd'hui, 60 ans après? Est-ce qu'il y en a encore une? Est-ce qu'il n'y en a plus? Et en tout cas, quel rôle clé a-t-elle joué dans ce mouvement indépendantiste qui ensuite a pris les formes polymorphes que vous avez si bien décrites, indiquées et traduites? Merci.
Merci de nous rappeler la mémoire du général de Gaulle, dont on parle encore presque tous les jours au Québec. Rares sont les jours où il y a les commentateurs politiques, les chroniqueurs, les journalistes, les gens dans les milieux politiques ne rappellent pas non seulement la déclaration du général de Gaulle, ce « Vive le Québec libre », mais l'importance qu'il a acquise dans la vie française, dans la constitution de la Ve République, qui dure quand même encore, hein? Elle dure encore, cette Ve République. Les historiens québécois sont aussi divisés sur la question est-ce qu'il s'agissait d'une déclaration qui était préparée ou improvisée, parce que leurs sources sont des Français, des historiens français qui ont des interprétations différentes de ce caractère improvisé ou préparé. Je ne sais pas, moi j'aimerais bien un jour avoir la vérité, il n'est pas là pour nous donner leur juste, le général. Moi, j'ai le sentiment que le général de Gaulle savait ce qu'il faisait. Il avait senti le long du chemin du roi. Hein, parce que je ne sais pas si vous y étiez peut-être, vous l'avez vu. Le long du chemin du roi, il avait été accueilli par la population, par le peuple du Québec, qui était le long de ces 300 kilomètres qui séparent Québec et Montréal sur la rive nord, là, qui est le très beau chemin. Alors, l'autre côté, il y a une autoroute qui n'est pas très belle, là, c'est l'autoroute 20. Alors, il avait été accueilli par ces Québécois qui étaient très fiers de dire qu'ils étaient français. Ils étaient français d'origine. Et j'ai le sentiment que ça a raffermi sa volonté de dire quelque chose comme ça. Puis, il y en a qui disent qu'effectivement, ça avait été préparé par ses conseillers, par ses rédacteurs, mais peut-être que ce n'est pas le cas. Et il l'a dit. C'est ça qui compte. Le Canada, vous savez, n'a pas aimé ça, hein, parce que le lendemain, il était dans un avion, persona non grata. C'est dans l'histoire, d'un peuple ou d'un pays, c'est rare, hein, de déclarer persona non grata le président d'une république, la République française. Mais je crois qu'il avait dû et voulait assumer ce geste. Il en a assumé bien d'autres dans sa vie. Et aujourd'hui, donc c'est il y a 50 ans, on va célébrer ça aussi. Je vous garantis qu'il va y avoir des célébrations l'an prochain, pas seulement de l'Expo universelle, mais de la déclaration du général de Gaulle. On en parle encore aujourd'hui? elle inspire encore aujourd'hui. C'est quelqu'un qui avait senti que ce peuple voulait être plus libre, il voulait être indépendant pour certains. Puis il y a encore beaucoup de gens dans ce peuple du Québec qui veulent que le Québec soit un État indépendant. 40% encore aujourd'hui des gens, entre 35 et 40%, voteraient oui dans un référendum. D'ailleurs, avant le référendum de 95, il y a eu 49% des gens qui ont voté oui. Quelques mois avant, il y avait juste seulement 38% des Québécois qui, étant sondés, disaient qu'ils votaient oui. Alors moi, ça me rend bien optimiste pour l'avenir. Si encore 40% des gens veulent l'indépendance du Québec, comme le général de Gaulle l'avait souhaité lui-même en 1967. La seule différence, vous savez, si vous permettez, Monsieur le Président, c'est que quand on entend l'ensemble de la déclaration du général de Gaulle, il parlait des Français du Québec. Il ne parlait pas vraiment des Québécois. Il parlait des Français du Québec. Il disait, en quelque sorte, que nous étions les Français du Québec. Il voulait que la France ait son foyer au Québec et en Amérique. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas les Français du Québec. Nous sommes des Québécois et des Québécoises de toutes origines qui avons construit une nation et qui, dans certains cas, voulons faire de cette nation un pays. Et donc, il y a quand même une différence aujourd'hui avec ce que le général de Gaulle envisageait en 1967 pour ce peuple.
Je vous remercie. Une dernière question, M. Besançon.
Merci, Monsieur le Président. Ayant de la famille au Canada et au Québec particulièrement, je voudrais poser deux questions de détail. Il existe une loi qui est, je crois, la loi 2000, hein, qui oblige à apprendre le français et aux nouveaux immigrants et qui ne leur donne pas tellement la possibilité d'apprendre comme ils veulent au Québec l'anglais ou le français. Et d'autre part, qu'en est-il actuellement de la créolisation ancienne de la langue française, c'est-à-dire ce qu'on appelle au Canada le joual? Voilà, elles sont mes deux questions.
Bon, à la première question, d'abord la charte de la langue française qui a été adoptée en 1977, qui fait du français la langue officielle du Québec et qui comporte des dispositions sur toutes sortes de questions, y compris la langue de l'éducation, oblige les citoyens du Québec, y compris des personnes qui deviennent immigrants, de fréquenter l'école française. Ça ne s'applique pas aux anglophones. Les anglophones ont un droit de fréquenter l'école anglaise. S'il y a des critères qui sont
anglophones d'origine ou
anglophones d'origine et canadiens anglophones. Pas les Australiens qui émigrent au Québec. Les Australiens qui émigrent au Québec doivent envoyer leurs enfants à l'école française. Et les Américains, ils émigrent au Québec. Ils choisissent le Québec comme terre d'immigration. Et d'ailleurs, c'est contesté. Hein, c'est contesté parce qu'il y a des gens de la communauté anglophone qui veulent que leur communauté soit enrichie d'une immigration de langue anglaise et qu'ils devraient aussi avoir accès. Mais oui, mais bon, ça va être quoi le critère, là?
C'est tellement visible.
Ça va s'appliquer à quel pays? Ben, au Pakistan, au Bangladesh, à tous les pays anglophones, de telle sorte qu'à un certain moment, il y aura une réduction significative du nombre de francophones au Québec. En tout cas, ça, c'est un enjeu qui est difficile. Mais pour ce qui est de l'apprentissage de la langue anglaise, les Québécois, les jeunes, apprennent maintenant l'anglais à partir de la première année du primaire. La première année du primaire. Avant, c'était la quatrième année, maintenant c'est la première année. Il y a beaucoup de débats entre les pédagogues sur l'opportunité d'enseigner l'anglais dès la première année. Mais là, maintenant, c'est le cas. Et donc, les Québécois francophones suivent des cours en anglais. 40% des Québécois, ou 60% même, je pense, peut-être Michel pourra nous donner la donnée très précise, des Québécois francophones s'expriment en anglais, ont une connaissance de l'anglais. C'est jamais aussi parfait que, par exemple, Bartha le souhaiterait là, lorsqu'elle embauche les étudiants francophones à l'Université McGill. Mais je pense qu'au plan fonctionnel, les Québécois francophones ont une très bonne connaissance d'anglais, sont très bilingues. Mais il faut dire aussi les jeunes anglophones maintenant, les jeunes anglophones du Québec. C'est moins vrai pour les générations qui les ont précédées. Les jeunes anglophones du Québec sont aussi très bilingues. Ils parlent français et sont même très fiers. Puis, il y a beaucoup qui sont très québécois, là, des jeunes anglophones. Et ça, ça me fait plaisir, moi, de savoir que les jeunes anglophones épousent la langue française, mais tout en étant très fiers de leur propre langue. Alors donc, tu sais, le français et l'anglais coexistent au Québec. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut et qu'il faut continuer de privilégier. Alors, pour le joual, ben vous savez, c'est Michel Tremblay, notre grand dramaturge et romancier, qui a mis à l'ordre du jour le joual. Mais il y avait d'autres avant lui, puis on en parle un peu moins maintenant, cette langue un peu bâtarde, où on utilise beaucoup de mots en anglais, où on francise des mots en anglais. Mais relisez Michel Tremblay, pour constater que Michel Tremblay n'utilise le joual que dans des guillemets. Dans des guillemets. Pour dire que les Québécois s'expriment aussi dans cette langue, ou dans une langue française qui n'est pas très belle. Et vous savez, je pense qu'il y a peu de littéraires qui, aujourd'hui, écrivent en joual. Parce que c'est pas une très belle langue, le joual, telle qu'elle est déformée. Pas plus le chiac de nos amis acadiens. Et cette langue française est tellement belle, elle est tellement... c'est la langue de notre littérature commune, elle n'a pas besoin d'être déformée. Mais il faut quand même respecter des gens qui la parlent de cette façon, puis la citer, les citer comme le fait Michel Tremblay. Alors, là-dessus, nos littératures communes ont aussi un devoir de rappeler l'importance de notre langue, l'importance de la parler avec nos accents différents. Moi, j'ai toujours trouvé que les Français ont un très bel accent. Ah oui, ils ont un très bel accent, les Français. Moi, je leur rappelle ça quand ils me disent que j'ai un accent. Ouais. Et d'ailleurs, le français a beaucoup d'accents dans le territoire de cet hexagone, n'est-ce pas? Mais l'important... c'est que nous l'ayons en commun, en partage, que nous la défendions.
Monsieur Soutou.
C'était une réponse, au fond, à la question que posait l'orateur. Mes collègues historiens et moi-même, c'est ma profession, sommes maintenant totalement convaincus, après étude des archives proprement officielles, mais également l'étude en profondeur de la biographie personnelle du général de Gaulle, des deux, converge tout à fait, son fameux discours ne devait rien à l'improvisation et c'était le résultat d'une longue évolution, ça je vous le confirme tout à fait. Votre profonde remarque sur le fait que français du Québec et québécois, c'est pas exactement la même chose, inspire des réflexions. Les Français ont un peu là un problème permanent qui vaut également dans d'autres cas. Par exemple, que les Suisses romands ne soient pas exactement des Français suisses, ou même chose pour la Belgique, a parfois un peu de mal à entrer dans nos cervelles. Mais je pense, chers collègues, dans deux ou trois siècles, on y arrivera. Merci.
En tout cas, merci de me confirmer que ce n'était pas improvisé. On aura un procès verbal de ce débat. Je ferai circuler abondamment le procès verbal avec votre confirmation et nos historiens du Québec auront leur juste.
Bien. Monsieur le professeur, je vous remercie infiniment de cet exposé qui à la fois nous a éclairé juridiquement, encore que nous pourrons, mais je crois que ce n'est pas le lieu, discuter plus longuement ensemble des motivations de l'avis de la Cour suprême du Canada qui m'ont paru un peu bizarres. Bon, mais ça, c'est une autre question. Mais merci de cet exposé. Merci de votre profession de foi québécoise. Et sur ce, nous vous souhaitons un bon séjour en France pour la suite de cette semaine. Merci beaucoup.
Merci, Monsieur le Président.